Bonsoir. 25 millions de touristes internationaux en 1950, 1 milliard en ce moment et 2 milliards d'ici 2030. C'est peu dire qu'au niveau mondial, le tourisme est un secteur économique qui a de l'avenir. Rien qu'en France, il représente plus de 7% du produit intérieur brut. Mais le problème du tourisme, ce sont les touristes. Parfois envahissants, parfois peu respectueux des populations locales ou de l'environnement, à tel point que certaines villes, régions ou pays envisagent de limiter le développement du tourisme et le nombre des touristes. Alors, comment rendre le tourisme plus vertueux, plus durable, plus responsable? Que penser également du tourisme humanitaire et de ces entreprises qui vendent souvent fort cher des séjours dans les orphelinats, les infirmeries de brousse ou encore les écoles du tiers-monde? Voilà quelques-unes des questions que nous allons aborder ce soir.
Philippe Lefebvre, le téléphone sonne.
Alors pour répondre à toutes vos questions, je vous présente nos invités dans ce studio. Josette Sixic, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice et rédactrice en chef du site touriscopie.fr, en duplex de France Bleu Loire-Océan. Christian Ruffino, bonsoir.
Bonsoir Philippe.
Vous êtes en charge du tourisme durable chez Salin Holiday, qui est l'un des principaux tour opérateurs organisateurs de voyages français. Et au téléphone, Vincent Fonveille, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes PDG de la Balaguère, tour opérateur également, et vous proposez des voyages dans 60 pays. Et votre credo, justement, c'est le tourisme responsable. Alors, pour poser vos questions, c'est très simple. Le site franceinter.fr, les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson, et enfin, bien sûr, notre standard, le 01 45 24 7000.
France Inter, Philippe Lefebvre, le téléphone sonne.
Alors avant d'aller au standard de France Inter, au 01 45 24 7000, je voudrais qu'on s'entende sur les mots. C'est quoi le tourisme durable ou responsable, Josette Sixic?
C'est aussi du tourisme solidaire, c'est aussi du tourisme éthique, c'est aussi de l'écotourisme. Donc effectivement, il y a un flou absolument formidable dans la terminologie qui fait qu'on n'est pas toujours sûr que les gens avec qui on parle, parlent de la même chose. Donc si vous voulez, je donne ma définition à moi.
Allez-y.
Pour moi, le tourisme solidaire, c'est une démarche d'abord personnelle, individuelle, qui consiste à prendre en compte une population sous plusieurs angles, l'angle évidemment humain, l'angle économique et sous l'angle écologique.
Christian Ruffino, même question, c'est quoi pour vous le tourisme responsable, durable, solidaire?
J'ai l'habitude de comparer le tourisme durable avec dans l'agroalimentaire ce qu'on appelle le bio. C'est-à-dire, c'est une nouvelle approche du tourisme, aussi bien sur le plan de la production que sur le plan de la distribution, comme l'a fait l'agroalimentaire. Cette démarche, elle l'a réalisée il y a plusieurs années, justement, avec les agriculteurs et bien sûr avec la distribution et les grandes surfaces. Donc le tourisme durable, c'est le bio un peu de l'agroalimentaire.
Voilà. Et Vincent Fonveille, alors vous, j'allais dire que le tourisme durable responsable, c'est un petit peu votre credo, hein?
Oui, si on veut. Oui, parce que je suis depuis quelques années président de ATR, qui est Agir pour un tourisme responsable, un regroupement de tous les opérateurs, et dont fait partie d'ailleurs Salin Holiday et Christian Ruffino. Et si vous voulez, moi, ce que je crois, c'est que on peut tendre vers un tourisme plus responsable à travers des engagements, des engagements de respect de l'environnement, de respect de l'être humain sous toutes ses formes et avant tout les populations d'accueil. Et si on tient ces engagements, on peut tendre vers un tourisme durable. En gros, ces deux notions sont proches l'une de l'autre. Et si on parle de tourisme solidaire, alors la solidarité est aussi un des engagements de tourisme responsable selon ATR, et à travers notamment de l'aide au développement local. Mais le tourisme solidaire, c'est encore autre chose. Pour être solidaire, je pense qu'il faut d'abord être responsable, être citoyen, ou tout simplement être un voyagiste, un tour opérateur professionnel. Voilà. Mais on ne peut pas être solidaire si on n'est pas d'abord soi-même citoyen et responsable.
Josette Sixic, c'est une révolution quand même dans le monde du tourisme. Parce qu'avant, il y a encore une dizaine d'années, on payait son billet d'avion, son séjour, son forfait, que sais-je encore. Et on se posait pas trop la question de savoir si l'avion polluait, si l'hôtel avait une démarche responsable. Ça remonte à quand cette prise de conscience?
Écoutez, j'ai créé Touriscopie il y a 20 ans pour observer l'évolution des comportements touristiques et on en parlait déjà. Donc, c'était les balbutiements hein, du tourisme responsable. Ce qui est intéressant, du tourisme responsable, solidaire, etc. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu quand même une sensibilité grimper au fur et à mesure des années, surtout parmi les Français qui ont été assez en retard par rapport aux autres Européens, notamment par rapport aux Italiens, aux Allemands, aux clientèles des pays du Nord. Donc, cette sensibilité a commencé, moi je dirais, une bonne trentaine d'années, hein, avec les premiers problèmes environnementaux. Elle n'a fait que se confirmer. Et je crois qu'aujourd'hui, effectivement, la grande majorité des gens ont entendu le message, même si après, ils ne sont pas capables de joindre les gestes à la parole.
Alors ça, on y reviendra tout à l'heure, parce qu'on s'aperçoit aussi que le durable, le responsable et le solidaire, c'est un coût qui est souvent supporté, bien évidemment, par les clients, par les touristes. Allez, direction le Standard, nous allons à Blois retrouver Gilbert. Gilbert, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter, nous vous écoutons.
Oui, quand on dit durable, je pense que, bon, on parle dans la durée. Et quand on voit la durée de ces séjours, d'une semaine, 15 jours maximum, et quand on sait le bilan carbone d'un voyage en avion, on peut se poser des questions. Sur ces 15 jours aussi, les touristes, ils vont dans les hôtels avec des clims et tout le point. Donc le bilan écologique, le bilan carbone, à mon avis, il est un petit peu oublié. Quand ensuite, à faire des activités durables, on a vu quelques émissions à la télévision, où il fallait largement douter sur... vraiment l'intégration dans un processus de développement économique qui profite plus aux autochtones qu'aux entreprises, j'ai dit bien entreprises, qui gèrent ce genre d'activité. Et j'émets des très très gros doutes sur la notion d'équité, d'écologie, quand on sait que c'est du patchwork et ça ne vient pas.
Alors Vincent Fonvieille, vous répondez quoi, Gilbert, face à ces doutes?
Je réponds qu'il a raison. Sur le premier volet de sa question, parce que c'est effectivement un paradoxe que de vouloir être responsable sur le plan environnemental et de prendre l'avion et d'avoir une empreinte carbone importante. Mais il y a des moyens à la fois pour réduire notre empreinte carbone. Alors c'est vrai qu'en allongeant la durée du séjour, on va vers une amélioration, mais chacun ne peut pas passer plus d'une semaine, 15 jours de vacances à l'étranger. Donc il y a aussi des moyens de compenser son poids en carbone, et c'est ce que nous essayons de mettre en œuvre. Et sur la deuxième partie de sa question, nous essayons chez ATR de mettre en pratique un tourisme, comme il l'a dit, fort justement, un tourisme équitable, où la richesse produite, la valeur ajoutée que représente le tourisme, soit le plus équitablement possible répartie, partagée entre tous les acteurs de la chaîne, que ce soit chez nous, dans la zone d'émission des voyageurs, et surtout dans la zone d'accueil, où la valeur ajoutée doit être capté par les acteurs du tourisme qui nous accueillent.
Christian Rofino, on voit bien les auditeurs qui sont sans doute aussi des voyageurs, ils doutent de tout ça parce que on a parlé à une certaine époque de cours de bourse pour les émissions de CO2, des choses comme ça. Ils se disent, est-ce que tout ça c'est pas juste du marketing? Est-ce que c'est pas finalement un peu du marketing?
Non, pas du tout. L'auditeur précédent, bien sûr, je rejoins Vincent, a tout à fait raison, mais à partir d'un raisonnement comme celui-là, bien sûr, le monde s'arrête de tourner. Non, il est évident que le voyage a une empreinte carbone très très importante, mais pour l'instant, personne n'est capable de le dire quelle est cette empreinte. Je crois que la première chose à faire, déjà, et nous le faisons chez Salin Holidays, nous évaluons notre empreinte carbone et nous faisons un bilan carbone. À partir de là, on cherche des solutions pour diminuer cette empreinte. Et il y a beaucoup de solutions qui permettent justement de continuer le modèle économique tout en choisissant d'autres solutions et en diminuant notre empreinte carbone.
Donc, quel genre de solution, par exemple ?
Les solutions, elles ont déjà été prises par certains tour opérateurs. La production de brochures, par exemple, d'un voyagiste, pour les voyagistes français, c'est l'équivalent à peu près de 300 terrains de foot d'arbres par an. Il a diminué de plus en plus depuis un certain nombre d'années parce que on a trouvé des méthodes d'information en ligne et ça a permis de diminuer une empreinte carbone. Il y a plein de solutions comme celle-ci et je crois qu'il faut pas être pessimiste, il faut simplement faire un constat comme nous le faisons et ensuite à partir de ces constats, nous envisageons des solutions pour des voyages beaucoup plus propres, pour des entreprises beaucoup plus propres.
Josette Sixic, quand on entendait Christian Ruffino tout à l'heure parler de non, c'est pas du marketing, on dit, mais si, c'est quand même du marketing. Alors, oui ou non ?
Oui, moi je pense qu'il y a quand même une part de marketing. Alors, ce qu'on appelle le greenwashing, bien entendu, on va essayer de s'adapter aux attentes du client. Cela dit, je trouve ça très bien ce que font les tours opérateurs. Je pense qu'il vaut mieux avoir affaire à des tours opérateurs qui font des efforts sur le plan du tourisme durable qu'à des voyagistes qui s'en foutent et qui existent encore. Après, il y a quand même le problème de l'aérien, moi, qui me choque toujours. Quand on part en voyage et qu'on prend un avion et qu'on sait que bon, le transport aérien est quand même responsable d'une grande partie des émissions de CO2, est-ce que on est dans un schéma de tourisme responsable ou pas ? Est-ce que quand on utilise de l'air conditionné, qu'on a des piscines à l'arrivée, etc., on est dans ces schémas-là, quoi ? C'est un peu les questions que je me pose. Il y a quand même une espèce d'incohérence. Et je crois que c'était à cette incohérence que l'auditeur faisait allusion.
Vincent Fronvier, vous vous y prenez comment dans votre association, justement, pour essayer de mesurer le niveau de déperdition en termes environnemental, énergétique?
Alors, je vais revenir sur ce que disait Josette Sixic. C'est vrai que si vous avez précisé au départ que le tourisme représentait 7% du PIB de notre pays, la France. Je n'ai pas des chiffres précis, mais je pense qu'il faut que l'on ait conscience de la richesse que cela représente pour des pays comme le Maroc, comme l'Inde, comme des pays éminemment touristiques, où c'est indispensable, où le tourisme est une économie indispensable localement. Donc je crois qu'il faut aussi se dire, bien sûr il y a des solutions d'amélioration, mais le transport aérien est un mal nécessaire. Ce que l'on peut faire, c'est avoir des pratiques pour réduire, notamment avec les transporteurs aériens qui font de gros progrès, avec des trajets plus longs, ce que l'on a dit précédemment. Mais ce que je crois qu'il faut prendre en compte, c'est l'importance de l'économie touristique pour les populations de ces pays-là. Et le deuxième volet sur lequel je voulais revenir, c'est, on a parlé de marketing. Moi, ce que je veux préciser, c'est que pour l'association ATR, Agir pour un tourisme responsable, et mon entreprise, La Balaguère, ce sont des engagements que nous prenons en matière de respect de l'environnement, et pas seulement de réduction de l'empreinte carbone, mais de respect de l'environnement, de respect du patrimoine, de respect des cultures locales, des engagements sur le plan humain, et notamment le respect des populations qui nous accueillent et le fait de les impliquer dans le tourisme que l'on organise chez eux, eh bien tous ces engagements-là sont vérifiés, contrôlés par un organisme extérieur que tout le monde connaît en France, ou beaucoup, qui s'appelle EcoCert, et qui garantit que ces engagements-là sont tenus. Et c'est pour ça que peut-être qu'effectivement, il y a un grain de marketing, et il y en a dans toutes les activités commerciales, mais il y a aussi de la sincérité, il y a des valeurs, il y a des convictions chez les organisateurs de voyages que nous sommes. Et je pense qu'il faut aussi tenir compte de ça, surtout.
Allez, on retourne au standard du téléphone sonne, direction Montgenèvre, où nous attend Samuel. Samuel, bonsoir, bienvenue sur France Inter.
Bonsoir messieurs, merci pour vos émissions. C'est un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que nous bénéficions de deux types de tourisme, le tourisme d'été en montagne et d'hiver. Ma femme est dans le milieu, elle est directrice de résidence hôtelière et on constate vraiment une grosse différence entre les deux publics. L'hiver, c'est une catastrophe. Voilà. J'ai pas les chiffres en tête des milliers de tonnes de déchets qui sont ramassés au pied des pistes à la fonte des neiges. Et vraiment, écologiquement, c'est une catastrophe. Il y a eu des efforts de fait, certainement, mais pas suffisamment. Donc, j'en profite. Si vous allez au ski, ramassez vos papiers, ne jetez pas vos forfaits. Et j'incite aussi tous les tours opérateurs et compagnies à lutter dans le sens où il faudrait créer un forfait à caution. Vous voyez, vous payez une carte, il faudrait qu'elle soit chère, 50 euros par personne. Comme ça, les gens ne l'achètent pas. Voilà.
Et alors, vous dites qu'il y a des différences entre la clientèle de l'été et la clientèle de l'hiver. Alors, vous avez parlé de la clientèle de l'hiver. Parlez-nous, oui. Samuel, de la clientèle de l'été.
Alors, l'été, on va randonner, on a un sac à dos, sa bouteille vide, on la met dans le sac à dos. Si jamais on mange une petite barre vitaminée, on met généralement, pas tous bien sûr, hein, mais en général, il y a une mentalité qui fait, parce que c'est moins cher l'été de venir randonner, vous n'avez pas besoin de forfait, c'est une autre clientèle. Voilà.
C'est pas juste parce qu'il y a de la neige et qu'on a tendance à mettre les choses sous la neige en oubliant que la neige elle finira par fondre.
Ah ben bien sûr que si. Enfin, que si, mais c'est exactement comme tellement de choses. Quand on jette sa poubelle, elle est derrière un couvercle et on ne la voit plus, donc ça ne nous concerne plus. C'est un peu le même problème.
Josette, c'est fou, hein, c'est les touristes qui sont à la fois Dr. Jekyll et Mr. Hyde. L'hiver, ils se moquent complètement de l'environnement. Et par contre, l'été, alors là, parce que ça se voit, on fait attention.
J'analyserai pas les choses exactement comme vous. Hein. Donc en hiver, on a du tourisme de masse à la montagne. Hein. On a une monoactivité qui est le ski. On vient passer une semaine pour faire la fête, pour se défoncer sur les pistes toute la journée. Donc c'est vraiment un type de tourisme très particulier. Je suis pas étonnée que celui-ci se comporte de la façon énoncée par le monsieur. Et puis, en été, on a tout à fait une autre clientèle. On a une clientèle d'amoureux de la montagne, de gens un peu plus élitistes, pas sur le plan financier, hein, mais souvent sur le plan éducation. Les gens qui viennent aiment la montagne, donc ils vont essayer de la respecter. Donc on a là, dans ce tableau, toute la dualité du touriste et aussi une partie de la complexité, hein, parce que le touriste, c'est plein de visages différents et plein de comportements différents selon le lieu où il est.
Alors, il y a des questions aussi sur le site franceinter.fr. Une question de Géraldine. La bonne attitude ne serait-elle pas, dit finalement Géraldine, de renoncer à certaines destinations qui souffrent déjà d'un tourisme de masse, comme Venise, par exemple? Votre sentiment là-dessus, Christian Ruffino?
Non, il ne faut pas renoncer à des destinations parce que le tourisme, c'est une richesse culturelle, c'est un échange humain et ce serait dommage d'abandonner des destinations à cause de certains comportements d'incivilité de certains touristes. Non, ce qu'il faut, c'est, comme nous le faisons avec ATR, c'est mettre des règles en place qui permettent permettent de mieux canaliser les flux trop importants de touristes. Alors, on a un problème.
Mais alors, comment on arrive à canaliser des flux de touristes quand on a, par exemple, on parle de Venise, on voit deux paquebots, d'ailleurs, les deux sont de grosses compagnies italiennes qui débarquent. Comment on canalise 4000 personnes sur chaque paquebot?
Ah ben, on choisit déjà de pas les faire accoster au plus près de la lagune et ensuite d'organiser des transferts pour aller visiter Venise. On essaie d'approcher un peu ce qu'on a fait au Mont-Saint-Michel. Je veux dire, on a arrêté de faire approcher les voitures trop près du site pour arrêter de le fragiliser. Non, je crois que il faut garder ces destinations importante, mais il faut en même temps les sécuriser par quelques règles, bien sûr, qui n'entachent pas le plaisir de voyager. Il ne faut pas non plus que le voyage devienne quelque chose de trop contraignant. Il faut qu'il y ait encore cette joie de découvrir des paysages nouveaux, des sites nouveaux. Mais il faut autant pour l'agriculture, pour les automobiles, on a créé, l'Union européenne ou d'autres organismes ont créé des contraintes parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Autant dans le tourisme, il n'y a aucune contrainte et tout va à volo. Les voyageurs, s'ils ne sont pas eux-mêmes responsables, ne voient pas pourquoi ils s'appliqueraient d'une manière volontaire des règles, puisqu'ils sont là pour se détendre, puisqu'ils sont là en vacances. Et là, je ferai une différence, justement, entre le touriste et le voyageur. Le touriste, c'est un peu celui qui veut partir pas trop cher, pour se détendre complètement. C'est un peu ce que disait le monsieur auparavant, c'est la montagne. Et le voyageur, c'est quelqu'un qui va à la découverte, qui va essayer de renouveler son champ intellectuel en découvrant d'autres populations, d'autres paysages. Et lui est respectueux. Donc, il y a tout, je dis pas une éducation, mais une sensibilisation à faire par rapport à ces touristes ou à ces voyageurs pour qu'ils aillent dans ces pays d'une manière respectueuse des populations et des environnements. Mais surtout, ne pas interdire. Vous savez, il y a des pays, par exemple comme Cuba, qui ont retrouvé la démocratie grâce au tourisme ou la Birmanie. Donc, il ne faut absolument pas interdire des destinations. Je ne suis pas d'accord.
Vincent Fonvier, une question de Mélanie sur le site franceinter.fr. Que penser des labels pour le tourisme, notamment l'écolabel européen, qui permet de limiter l'impact environnemental des hébergements?
Bien, je n'importe que du bien, forcément, puisque le principe d'ATR, enfin l'un des rôles d'ATR, c'est justement de mesurer et de mettre en évidence les engagements pour ce qui nous concerne de tour opérateur en matière d'environnement et en matière d'équité sociale. Et donc forcément, les tour opérateurs, les voyagistes s'appuient sur des hébergeurs. Et quand on a des hébergeurs qui sont eux-mêmes engagés à travers un label, et il y a l'écolabel européen, mais il y en a d'autres, eh bien, ça nous facilite le travail. Et nous, on est très contents d'avoir des partenaires comme ça qui mettent en place et qui s'engagent même dans une amélioration de leur pratique. J'aimerais, si vous voulez, quand même revenir sur ce qui a été dit, parce que je trouve que l'exemple qu'a cité la personne de Savoie, je crois,
de Montgenèvre.
Du Mont-Genève. Je trouve que c'est une bonne illustration d'un côté d'un tourisme de masse et d'un autre côté d'un tourisme plus respectueux. Mais je crois que ça tient de toute façon à la pratique elle-même. C'est-à-dire que d'un côté, on organise un tourisme massifié, on construit des installations, on monte les gens sans effort en haut des montagnes et forcément, le touriste, le pratiquant de ski, eh bien, il est plus un consommateur qu'un voyageur, bien sûr. Et donc, il est dans un stade. voyez, il en oublie peut-être le comportement, les pratiques citoyennes. Alors que celui qui se promène en montagne, et je connais bien, c'est mon cœur de métier, moi je suis dans les Pyrénées, il va se randonner, se balader en montagne, et il a tout intérêt à respecter cet environnement-là, parce que sinon, il se tire une balle dans le pied et il n'y va plus. Et je pense que notre rôle à nous, c'est effectivement de informer, entre guillemets, éduquer les voyageurs pour leur faire comprendre que ils ont intérêt pour eux-mêmes à respecter et à protéger cet environnement-là.
Josette Sixi, vous vouliez réagir?
Oui, voilà. Moi je voudrais dire, bon, évidemment, il y a l'opposition entre tourisme de masse et tourisme, évidemment, individuel, respectueux, etc., etc. Non, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a aussi, je suis d'accord avec le fait qu'il faut absolument essayer d'éduquer le touriste d'une manière générale. Quand on voit les comportements dramatiques qu'il peut avoir, justement, les jeunes, parce que le tourisme est un moment de transgression. Quand on part quelque part, on s'autorise des conduites qu'on ne s'autorise pas dans sa vie quotidienne. Donc, pour en revenir à la sensibilisation, c'est l'affaire des États aussi. Je trouve intéressant l'exemple de l'Islande.
J'allais vous en
récent,
parler justement. C'est un gadget de l'office du tourisme islandais.
Je crois pas.
Il faut expliquer aux auditeurs de quoi il s'agit.
Il y a vraiment le serment irlandais. Là, il demande aux touristes, donc en arrivant ou avant de partir en Islande, de signer une sorte d'engagement par rapport à la nature, par rapport à l'environnement, par rapport à l'hébergement, etc., etc. Bon, c'est du gadget, oui, bien sûr, mais en même temps, c'est peut-être un peu une des orientations à suivre pour beaucoup de pays, c'est-à-dire ça participe de l'éducation du tourisme, c'est de dire bon, attendez, vous allez quelque part dans un autre pays qui essaye de bien se tenir, d'être beau, propre, etc. Ne le détruisez pas, c'est quand même un langage très très simple qu'on utilise, parce que vous allez détruire votre séjour à vous en même temps, quoi. Donc il y a quand même cet intérêt dans cette démarche.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 ou sur les réseaux sociaux avec le mot-clé TELSON.
Retour au standard du téléphone sonne. Nous allons à Canet-en-Roussillon retrouver Anna Elia. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter, nous vous écoutons.
Bonsoir, merci. Merci pour vos émissions et merci de me donner la parole. Oui, voilà. Moi, je m'occupe de l'association des Gîtes de France dans les Pyrénées-Orientales, qui est d'ailleurs, les Gîtes de France, un réseau qui fait partie d'ATR. Et dans la notion de tourisme durable, je crois qu'on peut dire que ça fait plus de 60 ans que les propriétaires qui accueillent tous les jours dans les gîtes et les chambres d'hôtes sont dans vraiment la vocation et de la transmission, de la sensibilisation, du partage. Et donc du tourisme durable, disons avant même que ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire que c'est des locaux qui accueillent chez eux, qui vivent ici, qui réinvestissent tout ici dans les territoires. Faire du tourisme durable, c'est aussi moins d'empreintes carbone que de découvrir toutes les contrées très riches de la France par le biais de réseaux responsables. Et un label de qualité dans l'hébergement, c'est aussi un engagement. Mais c'est aussi un engagement des vacanciers que de se rendre dans ce type d'hébergement, parce qu'ils savent qu'ils vont à la rencontre des habitants. Et par ces habitants, dès lors que les vacanciers sont respectés, ils rendent du respect au territoire et aux personnes qui les entourent. Je pense que c'est vraiment le décalage aussi entre les locaux et les vacanciers qui parfois créent vraiment des tensions. Et quand on a des périodes estivales surchargées, ça crispe davantage parce qu'il y a de la promiscuité. Concrètement, quand on est un réseau associatif d'hébergeurs et que dans les outils, parce que tout à l'heure vous parliez de production et de distribution, mais aussi de consommation, il y a vraiment un engagement aussi bien de la part des propriétaires que des vacanciers. Et après, les outils de commercialisation, c'est notamment dans les Pyrénées-Orientales une société coopérative d'intérêt collectif qui donc est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui s'engage à ce que tout soit réinvesti sur le territoire. Et il va sans dire, évidemment, que sur tout ce qui est imposition et création d'emplois, ça reste aussi sur le territoire.
Alors moi, je voudrais qu'on aille encore plus loin. Là, on a été dans les Pyrénées. On va repartir au bout du monde. Vincent Fonvieille et Christian Ruffino, vous nous avez dit tous les deux qu'il était question de réinvestir une partie, peut-être de la manne touristique ou en tout cas de votre chiffre d'affaires, que sais-je, dans des actions. Vous pouvez nous donner des exemples concrets, comment ça se passe et comment c'est financé? C'est financé par les tour opérateurs ou c'est financé par les voyageurs? Christian Ruffino.
C'est financé. Enfin, chez Salin Holidays, nous avons cette opération de tourisme solidaire. Mais c'est un tourisme solidaire, je dirais, réactif. Par exemple, je prends un exemple. Au Vietnam, on a aidé une tribu Hmong en leur apportant. C'est pourtant pas une région très touristique, ce n'est pas un endroit touristique, mais on a fait l'effort dans le circuit d'aller voir cette tribu, cette communauté, et on passe une journée avec eux. Les clients passent une journée, les clients de Salin Holiday passent une journée avec eux, où ils font des démonstrations de leur savoir-faire artisanal, où ils font cuisiner les touristes, où il y a des danses, il y a des spectacles. Bref, c'est une journée fusionnelle et c'est une journée complètement en immersion. Et c'est un tourisme solidaire, bien sûr. Toute la recette de la journée leur revient entièrement. Il y a à peu près une trentaine de familles qui vivent pratiquement que de ça. Et en même temps, les touristes de Salin Holidays sont plus imprégnés par la réalité, par l'authenticité du pays, parce que ils ont abandonné les grandes voies, ils sont allés par les petits chemins de traverse pour aller trouver des habitants qu'ils n'auraient pas trouvé dans un circuit normal. Voilà. C'est un gagnant. Alors, pour le touriste, gagnant pour les populations.
Vincent
voilà
Fonvieille.
Un exemple du tourisme solidaire tout en étant convivial.
Même question, Vincent Fonvieille, sur comment le nerf de la guerre dans cette affaire.
Oui, est-ce que je peux me permettre juste une petite correction avant de répondre à votre question?
Bien sûr.
Par rapport à ce qu'a dit l'auditrice précédente. Pour qu'il n'y ait pas de confusion chez les auditeurs, les Gîtes de France ont adhéré à une association des acteurs du tourisme durable et pas à ATR qui est un label de tour opérateur. Hein, il faut bien distinguer les deux choses. Parce que c'est déjà un peu compliqué ces questions de label et donc c'est pour juste rectifier. Maintenant, pour revenir à ces engagements en matière de solidarité, vous savez, quand vous voyagez dans tout un tas de pays qui sont pauvres, hein, il faut le dire, et que vous voyagez à pied, comme c'est le cas des voyages de la Balaguer, eh bien, vous restez pas insensible. Vous ne pouvez pas, et dans de nombreux cas, vous ne pouvez pas ne rien faire. Et c'est vrai qu'on a mis sur pied, mené un certain nombre d'actions, d'engagements, d'aide au développement local. Par exemple, je vais prendre l'exemple du Népal, parce que c'est un bon exemple, où nous aidons des villages qui sont véritablement dans le besoin, parce que le Népal est un des pays les plus pauvres du monde. Et quand on passe à pied dans les villages, eh bien, comme je vous l'ai dit, on n'est pas insensible. Et donc, on a mis en place des aides où on demande à nos clients de participer et le tour opérateur abonde et finance des actions de création d'écoles, d'aide de coopératives de femmes, etc. Et puis il y a un deuxième type d'engagement qui est celui de l'urgence. Et notamment, j'ai pris le cas du Népal, vous vous souvenez du séisme terrible de Katmandou. Et bien dans ces cas-là, nos clients réagissent et font preuve d'une grande générosité, et ce qui nous permet d'apporter une aide conséquente à nos partenaires dans ces pays, parce que bien sûr tout ce tourisme qui s'organise avec des partenaires dans chacun des pays et des partenaires locaux, et bien sûr on est parfois même obligé de freiner l'élan de solidarité et de générosité, parce qu'on a des gens qui partiraient dans ces pays pour mettre la main à la pâte. Mais dans ces cas-là, notre devise, c'est de dire bon, il vaut mieux laisser faire ceux qui savent, et notamment, et pour ça, il y a des ONG. Et nous, notre métier, c'est un métier d'organisateur de voyage, et ça n'est pas un métier d'aide au développement.
Alors, José de Sixique, justement, là, on est au cœur d'une autre partie de cette émission. Il y a ce qu'on appelle le tourisme humanitaire. Alors là, je le décrivais à grands traits au début de cette émission. On paye souvent fort cher des séjours pour aller faire de l'alphabétisation au fin fond du Burkina Faso, et travailler dans une infirmerie ou une léproserie, que sais-je encore. Ça c'est quoi? C'est encore du tourisme ou c'est du voyeurisme qui dit pas son nom?
Alors, le tourisme humanitaire, moi j'en avais une autre définition, donc vous voyez, on s'en sortira jamais. Hein. C'est plutôt le tourisme qui va intervenir dans des situations d'urgence via des ONG, justement. Hein. Donc, il y a
mais qui ne sont pas des organisateurs de voyage, pour le coup.
Qui ne sont pas des organisateurs de voyage. Il y en a beaucoup. Hein. Au Cambodge, il y a 200 ONG à peu près. Quand il y a eu un tremblement de terre à Haïti, vous avez toutes les ONG qui y vont. Et justement, sur France Inter, ce matin, j'écoutais cet écrivain haïtien qui disait que ça a été une catastrophe. Les ONG sont arrivées avec plein de touristes sur leurs talons, qui ne savaient pas faire grand-chose, parce que quand on fait de l'humanitaire, ben, il faut avoir une spécialité. On est ou infirmier, ou médecin, ou maçon, ou je ne sais quoi. Hein, donc, c'est pas toujours le cas. Et avec de bonnes intentions, on provoque souvent des catastrophes. Donc, c'est... l'humanitaire, quoi, le tourisme humanitaire a quand même, à mon avis, plus de mauvais côtés, malgré ses bonnes intentions, que de bons côtés, parce qu'il se gère mal, parce que voilà, ça demande.
Est-ce que c'est pas aussi un peu du gros n'importe quoi?
C'est du n'importe quoi.
De vendre 7000 euros un séjour pour apprendre
après,
le journalisme.
Quand on ne passe pas par des ONG, effectivement, on peut tomber entre les mains de voyagistes qui vous demandent. Mais eux, c'est du solidaire. Ils parlent pas d'humanitaire. Ils parlent aussi de solidaire. Donc on est toujours dans les risques de confusion et qui effectivement vont vous vendre une activité consistant à alphabétiser des petits malgaches, qui n'en ont pas besoin d'ailleurs, moyennant une somme importante. Or, en fait, ils auraient pu aussi bien vous vendre de la planche à voile ou du surf une activité quelconque sur place.
Et Christian Ruffino, je voudrais qu'on reparle aussi de ce qui était notre sujet de départ, à savoir le tourisme durable et responsable, et rapidement, parce que l'heure tourne, si je puis dire. Il va y avoir, très bientôt, vous m'avez expliqué ça en préparant cette émission, des palmes du tourisme durable. Alors, je voudrais que vous m'expliquiez en une minute ce que c'est. Ça va être quoi? Un label supplémentaire? Une distribution de bonnes notes?
Pas du tout. C'est exactement le même principe que les trophées de la musique ou les palmes du Festival de Cannes. C'est on remet dans 6 catégories que sont les voyagistes, les hébergeurs, les transporteurs, les destinations, les régions de France, qui peuvent déposer un dossier d'action de tourisme durable, bien concret. C'est pas un projet, c'est une action qu'ils ont déjà réalisée. Et ensuite, on veut sensibiliser le grand public à cela. Et on veut que les internautes qui sont soit des lecteurs de la presse régionale, soit des lecteurs de la presse nationale, soit des auditeurs de radio qui seraient partenaires avec nous. Et les internautes votent pour l'un des deux dossiers en concurrence dans chaque catégorie. Et le 12 décembre, nous remettons à le lauréat qui a reçu le plus de votes le palme du tourisme durable dans sa catégorie. L'objectif, c'est de sensibiliser le plus possible de voyageurs potentiels. Et ces palmes, c'est la première édition, nous l'espérons, seront un événement fondateur du tourisme durable en France, parce qu'on reste trop entre nous, entre professionnels, et nous voulons sensibiliser pour la plus grande partie du public, pour qu'ils sachent et qu'ils aient en face d'eux des offres véritables de tourisme durable.
Vincent Fonvieille, si je suis client, candidat au voyage et que je veux plutôt privilégier un professionnel aujourd'hui, qui est dans cette démarche de tourisme durable, responsable, solidaire, je le repère comment ?
Tout simplement au label ATR, Agir pour un tourisme responsable, que le professionnel va poser sur son site internet, sur sa brochure, et c'est repérable très facilement. Et comme je vous l'ai dit, et comme je l'ai dit précédemment, c'est EcoCert, la société bien connue, notamment par rapport au label bio, qui contrôle les engagements de ces tour opérateurs. Donc c'est le label ATR, Agir pour un tourisme responsable, et qui représente aujourd'hui une vingtaine de tour opérateurs français. Mais nous sommes largement ouverts pour accueillir d'autres tour opérateurs, à condition qu'ils aient l'intention, qu'ils aient la volonté bien de progresser, de s'engager sur ce chemin, parce que c'est une démarche, hein, c'est un chemin pour être plus vertueux.
Alors très vite, une question de Jean au standard. Jean, bonsoir.
Bonsoir.
Alors en quelques secondes, votre question.
Oui, ma question c'était, est-ce qu'il est souhaitable que le tourisme se développe au niveau de l'Antarctique, parce qu'il y a déjà pas mal de temps que cette Antarctique est menacée, et ça serait dommage qu'il le soit par des touristes trop nombreux.
Voilà, Vincent Fonvieille, on va essayer de répondre très rapidement. On cherche toujours des nouvelles destinations touristiques, alors l'Antarctique...
Je ne vais pas répondre sur l'Antarctique précisément, que je ne connais pas, mais je vais répondre d'une façon générale. Notre démarche, c'est de mesurer les enjeux qu'il y a pour chacune des destinations, et notamment les destinations fragiles, de façon à mettre en place un certain nombre de recommandations, ou peut-être même tout simplement des recommandations de ne pas se rendre sur ces destinations-là, parce que les enjeux sont trop importants et qu'il vaut mieux qu'il n'y ait personne. Voilà, ça c'est globalement notre démarche.
Eh bien, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin de ce téléphone sonne. Merci Josette Siksik, Vincent Fonvieille et Christian Ruffinou d'avoir participé à cette émission. Demain soir, eh bien, je vous retrouverai à la même heure et à la même adresse pour parler cette fois du coup de la rentrée scolaire.